I'm telling you, you guys were born for this. You were born for this. Bunch of funky old seniors. We ain't got many. And you guys got 50 wins. Nobody in the history of the ACC's got 50 wins. Ever. I mean, it's unbelievable. It's amazing. You got 51 will be the only team in college football history. Ain't nobody ever had 51 wins. It's special to see what you guys have done. Let me tell you, it's not easy to do what you guys have done. You made it, and we've had perseverance all year. The difference between a champ and a chump is you.
On va lancer tout de suite les hostilités. Donc Clemson est officiellement à 4-0. Victoire à Wake Forest après deux overtime. C'était un match mais chaud. On a vécu un peu tout. Hein. On a un peu tout vécu ouais, pendant cette période. Donc on a le match. Donc ça, il s'est fini à 51-45 après deux overtime. Voilà, j'ai mis la fiche complète. Comme ça, on voit ce qu'a fait DJ Wagalele et Sam Hartman du côté des QB. Donc DJ Wagalele, quand même, c'est 26-41, 371 yards, 5 TD, 0 à terre. Le match avait très bien commencé. Par touchdown de Clemson, on mène 14-0. Je dis ça y est, on va dérouler. C'est comme la saison dernière, on va pas trop souffrir pendant ce match. Et là, du coup, la défense de Wake Forest s'est un peu ajustée. Et là, Sam Hartman a trouvé les points faibles de l'équipe. Hein. Donc, faut savoir qu'il nous manquait quand même nos corners et puis nos safety quand même. Et du coup, c'était des freshmen qui jouaient sur notre DB. Et du coup, c'est vrai que quand tu tombes sur un A.T. Perry en feu, pour des freshmen, c'est très, très compliqué de tenir un receveur comme lui. Et du coup, Sam Hartman a trouvé, c'était les diagonales droite à gauche. Voilà, il a montré tout son talent sur ce match. Et bravo à lui parce qu'il a sorti un sacré match. 20 sur 29, 337 yards, 6 TD. Voilà, c'était un match un peu de fou. L'offense n'était pas au rendez-vous. Mais voilà, Sam Hartman et DJ Wagalele ont rendu deux belles fiches. Donc vous avez les cartons tout au-dessus, donc on était à 14-7 à la fin du premier carton, deuxième carton donc 20-14. Après Wake Forest va passer devant Clemson dans le troisième carton, et le dernier carton Clemson se la défense fait pas mal de stops, reprend un peu la main sur l'offense de Wake Forest, qui nous permet d'accrocher l'overtime. Et en overtime, voilà, on arrive au deuxième overtime à faire la différence. Mais c'était un match plutôt tendu. Moi qui étais pas mal occupé en famille la semaine dernière, j'étais avec mon téléphone, j'étais avec les enfants, c'était très compliqué pour moi, je souffrais en plus. Pierre a pris la main sur le Twitter, qu'il a très bien fait. Je vais commencer par toi, Pierre. Pierre, comment t'as trouvé ce match?
Déjà c'était un match de fou. C'était un match super agréable à regarder parce que émotionnellement parlant, c'était sympa à regarder. Et puis même quand t'as des scores comme ça, même si t'es supporter neutre, c'est sympa à regarder quoi. Que ce soit les drives de Clemson qui étaient un peu plus galères, mais finalement qui étaient, on va dire, peut-être plus complets. Il y avait un peu plus de jeux au sol. C'était un peu plus des, plus aller chercher les troisièmes et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Mais du côté de Wake Forest, ça envoyait des avions à chaque fois. C'était assez incroyable à voir. Du coup, de façon générale, c'était juste un match super beau à voir, je trouve. Mais en tant que supporter de Clemson, c'était compliqué. On a eu très très peur. Et non, c'était génial, vraiment très agréable à regarder.
Ce match se joue à des petits détails, et la défense a su vraiment faire la différence au bon moment, on va dire. Mais on s'est fait quand même pas mal manger. Hein. Faut être clair, on s'est fait pas mal manger. Andrea, toi, la locale, on va dire, de l'étape, comment t'as vécu ce match?
Oh, ce match m'a presque donné une crise cardiaque. Mais Clemson a gagné. Yay!
Oui. La photo en disait long sur ton Twitter. Tu dis, on peut aller manger tranquillement. La fin du match, Clemson a gagné. C'était plutôt... J'ai bien aimé. Et toi, Greg, ton aspect extérieur et ton point de vue, qu'est-ce que tu as pensé du match? Et pour toi, qu'est-ce qui a pu faire virer ce match comme ça, on va dire?
Alors, pour rejoindre ce que disait Andrea, oui, en effet, le plus important, ça reste la victoire. On va retenir ça parce que, voilà, en effet, tout n'était pas au beau fixe du côté de Clemson, mais c'est pas forcément la priorité quand tu arrives à battre le vainqueur de division en titre et un des principaux adversaires directs, justement, pour, dans l'optique de la finale. C'est vrai que ce match était assez perturbant dans le sens, et ça a été là aussi plus ou moins dit au début, ça a très bien commencé et, j'ai vu petit à petit une espèce de, j'allais dire d'inconstance, mais en tout cas, ouais, une espèce de baisse de régime, pardon. Je vais essayer à retrouver mes mots. Que ce soit en attaque ou en défense, on a commencé à avoir un peu plus de pénalités relativement évitables, avoir une défense qui était beaucoup moins incisive, notamment les linebackers, par exemple, que j'ai trouvé très présents au début. Alors après, c'est peut-être aussi lié au plan de jeu de Wake Forest, qui a un petit peu joué à la course au début avec Justice Ellison et qui rapidement s'est dit « Tiens, il y a deux cornerbacks freshman à tester, donc on va arroser pour voir ce que ça donne. » Mais j'ai senti que les linebackers, même Trenton Thompson, qui en début de rencontre était assez actif, on les a sentis disparaître un petit peu. En termes de placement, c'était des blitz un peu timides. Et c'est vrai que ça, malheureusement, enfin, vous avez peut-être développé un petit peu plus là-dessus, mais c'est vrai que le principal bémol, forcément, sur ce match-là, c'est la défense. Et c'est principalement, notamment, le premier rideau qui avait peut-être aussi besoin de surjouer, on va dire, pour éviter de mettre sous pression ces cornerbacks-là. Et on a l'impression, justement, que petit à petit, en tout cas, dans une certaine période du match, après le 14-0, et on va dire jusqu'au quatrième quart où Clemson s'est vraiment remis dedans, on a l'impression, ouais, qu'ils ont perdu pied petit à petit et qu'ils ont laissé la main mise à Wake Forest dans les tranchées, ce qui nous a donné des drives supersoniques. Enfin, Wake Forest, je crois que c'est 22 minutes de possession à 37, je crois, par rapport à Clemson. Donc vraiment, ouais. Mettre 45 points en 22 minutes, c'est vraiment que les drives ont été à toute allure. Tu parlais d'Etty Perry, mais je crois que c'est Jamal Banks, je crois, l'autre receveur qui a beaucoup fait souffrir le dernier rideau de Clemson. Donc ça a été très très vite, malheureusement, pour les Tigers. Et malheureusement, et ça, une fois n'est pas coutume, voilà, la ligne défensive des Tigers, malgré le retour de Tyler Davis, par exemple, il n'est pas forcément étranger.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va parler vraiment des choses qui ont marché tout de suite. Donc, ben, on a DJ Wagalele qui m'a surpris, moi, qui a tenu l'équipe. Alors, beaucoup diront, bah, il a eu de la chance parce qu'il a ses bons receveurs, parce que oui, peut-être, je dis pas le contraire. Mais ce qu'on peut voir sur DJ, je fais vite fait un petit tour sur sa fiche. Voilà, par rapport à l'année dernière, quand même, il a déjà 1033 yards, 10 TD, une inter. L'année dernière, il a eu, si je me trompe pas, 9 TD, 10 interceptions. Voilà, pour remettre les choses dans le contexte, il est à 64,3% de complétion. Voilà, bon, je dis pas que c'est peut-être le match qui va lui faire le déclic, mais moi, il m'a plu pendant ce match parce qu'il nous a, on va dire, comment dire, il nous a tenu aussi l'équipe à bout de bras. Et heureusement qu'il était là parce que je pense que ça aurait été compliqué. Et la deuxième arme qu'on a eu, c'est Will Shipley, 7e touchdown depuis le début de la saison. Ce mec est un phénomène. Le touchdown qui marque là, dans le dernier quart-temps, tu te demandes d'où il va le chercher, quoi. Il est monstrueux, quoi. T'as l'impression que c'est l'âme de l'équipe, t'as l'impression que c'est lui qui remobilise un peu tout le monde, c'est lui dans les moments durs qu'elle a. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il a quand même 20 portées, 104 yards, 1 D. Voilà, je pense qu'il a dû avoir une... Non, il n'a pas de réception. Non, il n'a pas de réception.
Mais bref, 3 réceptions, voilà, pour 15 yards, je crois avoir aperçu.
Trois réceptions. 3 réceptions, 15 yards, voilà. Ouais, c'est ça, 3 réceptions, 15 yards. Donc voilà, c'est un joueur complet. Et puis, c'est la première fois qu'on a... Après, je vais donner la parole. C'est la première fois qu'au niveau Ngata, Brinick Stool, Bo Collins, William, Spector, bon, on l'a vu une fois, il a eu une réception à touchdown, bon, bah, on en va mieux, hein, s'il fait ça, tout ça sera bien. Will Shipley et puis AJ Williams. Donc, on trouve que vraiment la carte a été vraiment, on va dire qu'il a distribué, quoi. Juste avant, je donne David, dans la conversation qui vient d'arriver, et après, je donne la parole. Bonjour David, comment tu vas? Ah, tu n'entends pas? Attends, ouais, ok. Bah, on va continuer pour le moment. David, dès que tu peux prendre, dès que tu nous dis que c'est bon pour toi, il n'y a pas de souci. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'attaque?
Non, du coup, l'attaque, c'était bien. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que, de nouveau, et c'est ce qu'on attendait depuis le début de saison, c'était d'avoir un DJ qui était plus en confiance.
Vas-y, Pierre, il arrive à beaucoup mieux distribuer.
Il a vraiment réussi à distribuer à plusieurs receveurs. On sentait vraiment plus à l'aise. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est surtout en red zone. En red zone, on a trouvé aussi beaucoup plus à l'aise, je trouve. Beaucoup moins dans la prise de décision. À ma première lecture, ça marche pas. Je vais courir tout droit et on verra bien ce qui se passe. Là, tu sentais vraiment qu'il attendait vraiment dans sa poche. Je trouve qu'il y avait vraiment une meilleure gestion. Et la preuve, en red zone, il a réussi à trouver nos tight ends. On a trouvé Bristol, on a trouvé Allen. Non, vraiment, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Il a réussi aussi à envoyer quelques grosses passes, genre sur des troisièmes et longues, là où il arrive à aller chercher Ngata ou même Bo Collins plusieurs fois, ouais. Sur des longues passes où tu te dis, je veux dire, l'année passée, on était en troisième et longue, là, tu vois, les troisièmes 22, les troisièmes et 22, tu te dis, c'est chaud, on va jamais y arriver, on va encore punter. Et là, franchement, c'est arrivé plusieurs fois où le drive a continué grâce à ça, quoi, tu vois, du coup, tu te dis, il a pris confiance et c'est cool. Et même nos receveurs, je veux dire, Ngata, on a vu beaucoup moins de drops de sa part. Moi, je pense que c'était top. C'était pas encore parfait parce que du coup, je trouvais que nos drives ils étaient compliqués. Tu vois, on y arrivait, mais dans la douleur, tu vois. Donc, on y arrivait et finalement, on arrivait quand même à aller chercher ce touchdown à chaque fois et à revenir dans le match. Mais c'était dans la douleur, mais on y arrivait. Du coup, c'est positif et je trouve que DJ a très bien distribué. Maintenant, j'espère qu'au niveau de Brandon Streeter, j'aimerais bien qu'il ouvre encore plus le playbook, qu'il fasse encore plus de choses, quoi, qu'il y ait plus de RPO, qu'il y ait plus j'ai l'impression que c'est assez classique comme système offensif et qu'il ouvre un peu le playbook. On l'attendait justement, on se disait, est-ce qu'il va le faire? Et qu'il attend de le faire et d'arriver dans des gros matchs de conférence. Là, je trouve qu'on l'a pas encore trop vu, mais bon, ça s'est quand même bien passé. Du coup, on va pas critiquer. Mais voilà, j'espère que les prochains matchs, il y aura peut-être encore plus de folie dans le jeu.
Moi, ce que j'ai vraiment aimé sur ce match, c'est Brennick Stool, Ngata, Collins. Les joueurs qu'on attendait sont là, quoi. Spector, c'est mon coup de cœur, mais on le voit pas encore assez. Mais voilà, quand il a fallu que DJ lui envoie le ballon, il était là et il a mis le touchdown. Bref, donc après, voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé ça bien. David, tu nous entends?
Je vous entends finalement, je suis bien content d'être avec vous, désolé.
Il n'y a pas de problème, David. On te souhaite la bienvenue.
Merci. Content d'être de retour avec l'équipe, rencontrer Andrea aussi, puis Greg, je vous avais entendu, mais on ne s'est jamais parlé en direct, donc je suis content de vous voir, je suis content de parler avec vous, surtout que pour Clemson, on est dans la grosse partie de la saison.
Oui, c'est ça. David, on est parti sur l'attaque. Là, je vais donner la parole un petit coup, Andrea. Je te présenterai, on fera une petite présentation de toi juste avant de lancer la deuxième partie, d'accord? D'accord, oui, mais n'hésite pas à intervenir, tu interviens quand tu veux. Andrea, tu as transpiré pendant ce match. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a rassuré? DJ, les receveurs, Will Shipley, qui c'est qui t'a rassuré le plus?
DJ avait incroyable. Il a fait des lancers sur une jambe. Shipley a fait preuve de détermination. Les Titans étaient super, super aussi. Davis Allen avait deux touchdowns. BT Potter est prêt pour la NFL. C'est tout.
Oui, c'est sûr que oui, notre kicker a fait il prouve chaque semaine que ça sera un futur candidat à la NFL pour la draft. Greg, moi je vais te poser la question clairement, tu me réponds franchement. DJ, il a fait son match, il a montré ce qu'il fallait faire. C'est pas toujours on va dire le plus beau à voir. Dans sa façon de lancer, la plupart du temps, ses pieds sont collés au sol, mais avec la force qu'il a du bras, il arrive à envoyer. il y a des QB, la plupart des QB n'auraient pas la force pour envoyer les bombes qu'il envoie parce que bah, les pieds sont mal placés ou il est un peu sur les talons. Que lui, c'est pas toujours, on va dire, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau, mais ça a été efficace pendant ce match. Toi, comment t'as trouvé ça, toi, sur ce côté-là et après sur l'attaque?
Alors, sur les axes d'amélioration par rapport notamment à la saison dernière, c'est intéressant ce que disait Pierre, parce que je suis pas à 100% d'accord. Je vois ce qu'il veut dire et là-dessus j'entends, mais justement, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Mais c'est vrai que la question du changement de coordinateur est très intrigante pour moi. Alors, je me doute que Dabo Sweeney, de toute façon, il doit quand même superviser ça d'assez haut. A priori, l'attaque, ça reste quand même sa spécialité. Mais je n'ai eu de cesse ces dernières années de m'arracher les cheveux justement sur les appels de jeu. Alors, je ne savais pas si c'était plus Jeff Scott ou Tony Elliott. Enfin, en tout cas, sur la période très récente, c'était Tony Elliott. Mais ce côté justement à vouloir faire courir coûte que coûte le quarterback, à vouloir faire ces espèces de screen fade sur Justin Ross, d'avoir un côté justement. Enfin, je trouvais en tout cas des appels de jeu assez, presque simpliste, voire compliqué sur certains moments. Enfin, il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Moi, je trouve en tout cas que les appels qui ont été faits par Brandon Streeter, en tout cas, ils étaient faits, je trouve, dans le bon sens contre Wake Forest. Et je trouve que, ce qui est intéressant, alors, encore une fois, ça reste la défense de Demon Deacons. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils en avaient pris 48 l'année dernière contre Clemson dans une attaque qui continuait de se chercher, Wagalelei en tête. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont quand même cherché à exploiter beaucoup plus, à mon sens, le centre du jeu. Le fait de jouer beaucoup plus sur les tight ends. Avant, c'était principalement sur Davis Allen, notamment en zone rouge. Là, je trouve que Wagalelei a souvent tendance à essayer de chercher cette fenêtre, justement, plein centre, que ce soit sur du jeu court ou sur du jeu longue distance, parce que souvent, Ngata, par exemple, était alerté dans le centre du jeu. Spector, il le trouve sur un jeu slot, il me semble. Enfin, il le trouve dans le slot. Donc, encore une fois, je suis d'accord avec Pierre sur le côté où on peut encore épurer, je pense, le play call, le développer encore un peu. Mais je trouve que c'est de bonne augure parce que peut-être que c'est bien aussi de mettre en confiance Wagalelei avec des choses peut-être moins compliquées ou en tout cas moins stéréotypées que ce que pouvait notamment lui faire Elliott la saison dernière. Et je trouve que c'est intéressant dans ce sens. Ça garantit pas que Wagalelei sera le top quarterback de la CC, de la première division universitaire. Mais en tout cas, ça peut lui permettre de prendre confiance au fur et à mesure des semaines. Et ça tombe bien parce qu'il va y avoir un test intéressant à venir. On en parlera tout à l'heure.
Bien évidemment. J'avais mon micro qui était coupé. David, je vais te donner la parole. Du côté du Québec, comment as-tu trouvé Clemson samedi dernier?
J'ai aimé ce que j'ai vu parce que Clemson, depuis le départ, on parle de cette équipe-là comme une équipe qui pourrait être dans le top 4, dans les éliminatoires. Une équipe qui, jusqu'à maintenant, là, n'avait pas eu de gros tests. Là, on va se le dire, là, c'est pas Georgia Tech, Furman et Louisiana Tech qui permettent de voir ce qu'une équipe peut faire. Wake Forest, c'est probablement la meilleure attaque que Clemson va avoir à affronter cette année. Sam Hartman est un corps arrière qui, selon moi, devrait jouer dans la NFL dès l'an prochain. Puis ils se sont quand même pas si mal débrouillés. Mais j'ai surtout aimé le caractère de l'équipe parce qu'à plusieurs reprises, en deuxième demi, ils jouaient de l'arrière, revenaient, redonnaient encore un toucher rapide, revenaient encore. Donc j'ai aimé vraiment le côté, la façon dont Clemson s'est comporté dans des moments difficiles. Ils ont montré, comme je vous disais, beaucoup de... En tout cas, moi, ils m'ont impressionné personnellement. Puis DJ, ben, sans dire qu'on revoit le DJ qu'on a vu lors de sa saison recrue quand il avait pris les rênes pour Trevor Lawrence, je pense qu'il faut s'enlever un peu cette idée-là de la tête. C'est pas le même DJ maintenant qu'il y a 2 ans. Reste qu'il a montré ce qu'il était capable de faire. Puis avec une performance comme ça, il éloigne un peu le corps arrière qui lui souffle dans le cou. Tranquillement, pas vite. Il prend un peu de confiance, je pense, ça paraît. La seule chose qui m'a inquiété, c'est la ligne défensive. Plutôt la ligne offensive. La ligne offensive a donné beaucoup de fil à retordre à DJ parce qu'il a été frappé. Il était 2 sacs du corps seulement, vous allez me dire, mais il a été frappé 8 fois derrière la ligne. Je pense que DJ, soit que sa balle partait pas assez vite, mais la ligne offensive a eu de la difficulté un peu. Puis Wake Forest, c'est loin d'être une bonne ligne défensive. Il va en affronter une très, très, très bonne ce samedi. Il va avoir beaucoup moins de temps pour lancer. Fait que ça va être à voir comment il va être capable de s'adapter. Mais j'ai aimé aussi au niveau, comme tu disais, Greg, là, le play calling, d'aller utiliser aussi beaucoup plus le jeu au sol. On a tenté de prendre des drives puis de les mettre un peu plus longues, des drives de 5 minutes, 6 minutes pour enlever le ballon des mains de Sam Hartman. Puis la course a vraiment été très utile. 188 verges au sol dans un match contre Wake Forest, c'est pas mauvais. Fait que je pense que l'équilibre est bon, mais aussi la résilience de l'équipe. Puis le côté un petit peu vétéran qui est ressorti. Là.
OK, merci de cette analyse complète sur l'attaque. Non, bon, on est tous un peu d'accord. On ne s'enflamme pas non plus. Il y aura un énorme test samedi, ça c'est sûr, contre NC State. Ça va être vraiment, vraiment un gros test. C'est ce qu'on s'était dit, David, en présentation quand tu as interviewé la première fois. On s'était dit, on se reverra avant le match d'NC State. On fera un premier point là. Et oui, bah, les premiers matchs, nous, avec Pierre et Andrea, on était assez inquiets quand même parce que les matchs ne nous rassuraient pas. Il faut être clair, hein, les matchs. Même la défense ne nous rassurait pas. Bon, bah voilà, il y avait une différence de niveau, ce qui permettait de gagner les matchs, parce qu'il y a une différence de niveau entre les joueurs, tout en respectant l'adversaire. Mais ça ne nous rassurait pas. Là, comme tu dis, ça a montré du caractère, ça a montré de l'envie, et on a vu que l'équipe avait vraiment. Elle n'avait pas envie de lâcher ce match, quoi. Et ça a été très important aussi de ce côté-là, au niveau caractère.
Oui, puis tu sais, Kate Klonick, qui avait été appelé à la fin du match, du premier match de la saison contre Georgia Tech, bizarrement, il entre première drive, ça va super bien. La pression était forte, là, DJ. Il devait montrer ce qu'il était capable de faire. Puis même si Dabo disait « Non, c'est notre corps arrière numéro un », c'est sûr que derrière sa tête, il doit se dire « S'il ne débloque pas, puis on a de la difficulté, je vais faire quoi, là? » On se rappelle, là, on avait eu le même problème avec Trevor Lawrence qui était sur le banc, puis finalement, bizarrement, quand il a commencé à jouer, tout a débloqué. On n'aura pas ces doutes-là, je pense que d'ici la fin de la saison, DJ, c'est le gars à Clemson.
OK. J'en profite, avant de passer sur le côté défense, j'en profite donc pour présenter David. David est un chroniqueur radio chez BPM Radio au niveau NCIA, si je ne me trompe pas, au Québec. C'est bien ça, David?
Oui.
Et il fait un podcast qui s'appelle « Premier les buts » sur la NFL avec ses amis Martin Saint-Jean et Willy Boivin, si je ne me trompe pas de nom.
Non, voilà. Tout est bon.
Tout est bon, OK. Donc voilà, n'hésitez pas à les écouter. N'hésitez pas à relier leur podcast ou pourquoi pas écouter aussi BPM Radio, même si on a du décalage horaire avec eux, mais avec Internet, il y a moyen d'écouter leur émission en direct chez eux. C'est toujours plaisant, quoi. Toujours plaisant à écouter, à avoir un autre avis que le nôtre. C'est toujours important. Voilà. J'étais complet, David, sur ta présentation.
Oui, écoute, puis j'ai même mon chandail premier début en plus. Là, je me suis même. Vous autres, vous êtes tous en orange ou en bleu. Moi, j'ai les couleurs de mon podcast. Là, donc.
Eh ben, c'est parfait. Juste, il y avait la fiche offensive de Wake Forest. Donc, Banks, qui a eu 6 réceptions, 141 yards. Et il a mangé nos quarts arrière, nos corners et notre safety. A.T. Perry, ben voilà, dans les moments difficiles, Sam Hartman le trouvait facilement pour des drives qui étaient compliqués pour eux. Voilà, donc c'était vraiment un gros match offensif. On va passer du côté défense. Côté défense, on a les stats. Pierre, toi, niveau défense, je sais qu'on n'est pas, on est encore pas rassuré. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu réagis après ce match?
Du coup, niveau défense, on n'est pas rassuré. Maintenant, il faut remettre tout dans son contexte. Sam Hartman et ses receveurs, c'est qualité NFL. Du coup, j'ai lu beaucoup de choses toute cette semaine et il faut aussi se calmer aussi un petit peu. Ça jouait contre nos freshmen et Wiggins. Wiggins, ouais, c'était censé être notre receveur, notre cornerback qui était censé step up cette année. Il n'y arrive pas trop jusque-là, vu comme il s'est fait cramer tout le match. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop dur non plus avec eux.
Non.
Voilà, c'était vraiment une très belle offense. Du coup, il faut rester tempéré, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on s'est fait, notre backfield a pris l'eau exagérée. Je pense que l'absence aussi de Mukuba. On n'en parle pas beaucoup, mais son absence joue énormément. Après, par rapport à ce que disait Greg, par rapport à la ligne défensive, elle n'était pas mauvaise. Il y a, d'ailleurs, Davis il a fait des plays assez incroyables, et heureusement qu'il était là à certains moments pour faire vraiment des plays vraiment clutch. Je lisais aussi une statistique des matchs précédents, KJ Henry qui disait que, je ne sais plus exactement combien, quel était le chrono, mais depuis ce début de saison, tous les quarterbacks contre qui on a joué, genre il lance la balle super vite, mais genre de façon très 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 rapide, et du coup c'est le plan de jeu un peu, c'est essayer de se débarrasser le plus vite du ballon, et du coup ben ouais, nos edge rushers qui sont censés être très très bons, ben n'arrivent pas à faire de stats. Bon, alors ça n'excuse pas tout, je dis pas, pour moi on devrait aussi être plus incisif et pouvoir créer plus de chaos sur cette ligne défensive, enfin sur cette ligne défensive, mais voilà, il doit y avoir cet équilibre de tu mets la pression sur le quarterback, il n'a pas le temps de lancer, et du coup bah, tes cornerbacks ont plus de temps pour vraiment rester en couverture, et inversement. Mais non, vraiment, c'était compliqué pour nos cornerbacks, et on espère que ça va revenir et que déjà les titulaires vont pouvoir reprendre leur place et rassurer tout le monde. Bon, sinon, il n'y a pas grand chose à dire, c'était pas horrible. C'était horrible par rapport au cornerback, mais le reste était bon. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bonnes, mais voilà, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas si je dois être vraiment ultra négatif ou essayer de trouver des points positifs, c'est compliqué. Voilà.
Ouais. Après, le point un peu négatif, même si on avance un peu sur le sommaire, le nombre de sacs, quoi. On trouve que voilà, on a que 3 sacs sur Sam Hartman. Je vois Greg hocher de la tête. Greg, toi, ton avis là-dessus, toi?
Alors, juste pour préciser mon propos, je dirais que j'ai cité Tyler Davis parce que du coup, il revenait. L'intérieur de la ligne, moi, en soi, je trouve qu'ils ont fait leur boulot. Après, il y a eu, en effet, sur l'ensemble du match, comme la défense globalement des Tigers, je le disais en amont, une forme d'inconstance sur l'ensemble du match. Mais concrètement, que ce soit Davis, Ororo également, Brizzy, on attend à voir, mais on sait qu'il y a un talent, il y a un talent monstre de toute façon. L'intérieur de la ligne, en soi, ne m'inquiète pas plus que ça. C'est vrai que c'est plus l'extérieur, et j'entends la déclaration de KJ Henry. Voilà, il y a peut-être aussi un côté non, vous inquiétez pas, on maîtrise notre sujet, etc., etc. Et c'est vrai que pour l'instant, alors, on attend le retour de Xavier Thomas, je crois qu'il est toujours blessé au pied, qu'il devrait revenir d'ici 15 jours si je me trompe pas. Mais c'est vrai que par exemple, si on cherche des petits bémols, j'attends peut-être un peu, alors peut-être que je me suis trop hypé sur le joueur, mais peut-être qu'un joueur comme Miles Murphy par exemple donne peut-être pas son plein potentiel sur le pass rush à 100%. Et c'est vrai que ça contribue également à avoir quand on attend de cette équipe de Clemson que ce soit une nouvelle génération de top linemen défensifs, c'est principalement contre la passe. Et c'est vrai que ça là-dessus, c'est encore un peu c'est encore un petit peu irrégulier à mon sens, mais voilà, je le redis, franchement, ils ont l'avantage d'avoir un groupe assez profond sur le poste de linebacker avec du talent et de la polyvalence. Ils ont l'intérieur de la ligne qui est extrêmement performant, et ça se ressent sur le run stop, hein, parce que je crois qu'en termes de yards concédés, c'est la troisième meilleure équipe de première div. Si tu comptes James Madison avec une opposition qui est pas tout à fait la même non plus. Donc honnêtement, voilà, c'est plus dans ce sens-là, pass rush vraiment à perfectionner, mais il y a pas beaucoup de, comme ça a été dit, ils vont pas rencontrer des équipes comme Wake Forest, des attaques comme Wake Forest toutes les semaines, et fallait bien s'attendre aussi à un petit peu de temps d'adaptation avec d'un côté des joueurs blessés et de l'autre le départ d'un coordinateur aussi emblématique que Brent Venables.
Ok, merci pour l'analyse complète. Andrea, qu'est-ce que t'as pensé de la défense? Ou qu'est-ce que tu peux nous dire?
Oh, même si on a joué en freshman, ils doivent être prêts. Les cornerbacks doivent tourner la tête pour éviter les penalties PI, pass interference. Dans l'été, ils se trônent avec des gants de boxe pour apprendre à ne pas tenir. Peut-être qu'il a besoin de plus de pratique.
Ok. Elle est plus dure que nous, Pierre. Hein?
Ouais, non, elle y va à fond. Là.
Elle a...
Mais franchement, c'est à chier.
Pierre, il dit, on ne va pas les assommer, on va prendre soin d'eux. Ah, Andrea, rac.
Pas une excuse.
Pas d'excuse, voilà. Pas d'excuse, t'es à Clemson, tu dois être au niveau. Et toi, David, comment t'as ressenti la défense ou les points clés de la défense pendant ce match?
Ben, en fait, la défense a été excellente contre la course. Je pense que ça, c'est le premier point. Mais Wake Forest est une équipe qui ne jure que par la passe. Donc, de toute façon, t'as beau ralentir le jeu au sol, c'est pas la force de Wake Forest. Puis clairement, ben, on a eu de la misère à s'adapter. Quand on regarde jusqu'à maintenant, là, Clemson, on parle de 8 sacs du corps en 4 matchs. C'est pas assez. On parlait d'une défensive qui aurait pu être historique au niveau du front seven. Ben, je vous rappelle qu'en 2018, dans le temps qu'on avait des gars, là, ça va peut-être vous sonner une cloche, là, mais tu sais, Clelin Ferrell, Christian Wilkins, Xavier Thomas, on était dans une défensive là, qui a ramassé à l'intérieur d'une année 54 sacs du corps. Cette année, on est sur un pace d'aller en chercher 24. C'est moins de la moitié. Fait que j'ai de la misère à y aller avec, disons, mes attentes qui étaient très élevées. Je pensais effectivement que Clemson allait avoir une défensive historique avec ce qu'on a présentement. Puis non seulement ça, mais on vient de passer à travers 4 matchs qui, relativement, là, au niveau des adversaires, auraient dû être à notre avantage. Là, tu sais, on s'entend que Georgia Tech, Furman puis Louisiana Tech, ça aurait dû être du 4 sacs, 5 sacs, 6 sacs du corps par match. Là, on aurait dû dominer des lignes offensives qui étaient beaucoup moins importantes que les nôtres, beaucoup moins talentueuses, puis on ne l'a pas fait. Ça va être quoi qu'on va jouer justement contre NC State, contre Florida State, qui a un bon début de saison? En tout cas, à moins qu'il y ait des ajustements majeurs, j'ai l'impression qu'on va avoir des problématiques qui vont ressortir dans les prochaines semaines.
OK. Ben, espérons que la défense monte en puissance et qu'on a des grosses améliorations. Le point fort, ben voilà, André l'a dit en début d'émission, quand j'ai présenté le score et la victoire. Beatty Potter, notre kicker, il faut le dire, il régale, quoi. Il loupe quasiment pas une transformation, il loupe pas un kick, voilà, il loupe pas un punt, pas un. Un extra point, je veux dire. Voilà, donc c'est plutôt complet. Quand on est en difficulté, bah, il est là, il a égalisé sur un kick de je ne sais plus combien de yards, mais oui, il était assez loin. Voilà, c'est quand même un joueur qui est rassurant pour l'équipe quand on peut aller chercher des points et qu'on n'arrive pas à aller se rapprocher de la end zone avec l'attaque. DJ, tons of time into the end zone, caught and single touchdown! Justin Ross! I believe we can be an army. We are the warriors who learn to fight. He's on the right side, fighting. He's here in the secondary. Got his feet in bounds, and the DJ is spinning for Clemson. Does it again.